Il est 7h.
On l'a vu au retour des vacances de la Toussaint et au retour des vacances de Noël, où il n'y avait pas de mesures renforcées et où le virus a continué de circuler au retour des vacances.
Et pourquoi pas des vacances scolaires rallongées, cumulées avec un confinement? C'est une hypothèse sur laquelle le ministère de l'Éducation travaille sérieusement. Un confinement, oui, mais quand? Mystère pour l'instant. Emmanuel Macron temporise. Il s'inquiète de la capacité des Français à accepter la mesure, à suivre les informations de Louis Dragnel. Inquiétude aussi des commerçants, déjà très affectés par le mauvais début des soldes. Avec le couvre-feu, ils craignent qu'un troisième confinement ne soit le coup de grâce. Dans ce journal, la proposition de loi sur le bien-être animal, texte loin d'être consensuel. Et puis le centre Beaubourg qui se refait une beauté, un lifting qui va entraîner une fermeture de plus de 3 ans.
Juste après ce journal, le début du forum virtuel de Davos. La Chine de plus en plus dominatrice. L'éclairage éco de Nicolas Barré. 18 rafales vendues à la Grèce. La France tire profit de son indépendance vis-à-vis des Américains pour Vincent Hervouet dans Le Regard International. L'édito sport de Virginie Fulpin. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des vacances de février plus longues que prévues, à coup sûr, ça plairait aux enfants, peut-être moins aux parents. Cette idée d'étirer les congés pour éviter une flambée des contaminations, notamment avec le variant anglais, elle a été lancée par le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy.
Et nous retrouvons notre spécialiste éducation. Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Du côté du ministère de l'Éducation, l'hypothèse est prise très au sérieux.
Oui, clairement, rue de Grenelle, on travaille sur le scénario avec à ce stade encore beaucoup d'interrogations. Faut-il rallonger les vacances de chaque zone pour une semaine ou bien les regrouper pour que tout le monde soit en vacances en même temps? Dans l'entourage de Jean-Michel Blanquer, on le dit, rallonger les vacances n'est clairement pas la garantie que le virus circule moins, sauf si c'est accompagné de mesures de confinement. Avis partagé, et c'est assez rare, par le SNES. Sophie Vénétité, secrétaire adjointe du syndicat.
Si les plus jeunes sont amenés à se déplacer, à aller voir leurs grands-parents, on aura loupé l'objectif qui consiste à limiter les contacts et les déplacements. On sait qu'il faut que ça s'accompagne d'autres mesures. On l'a vu au retour des vacances de la Toussaint et au retour des vacances de Noël, où finalement, il n'y avait pas de mesures renforcées et où le virus a continué de circuler au retour des vacances.
Se pose également la question de la continuité pédagogique. S'il y a un arrêt de 3, voire 4 semaines, la seule solution, explique un proche du ministre, c'est, après le temps des 2 semaines de vacances prévues initialement, de proposer des cours en distanciel pour tout le monde, primaire, collège et lycée, et organiser une garde prioritaire, notamment pour les parents soignants, comme lors du confinement de mars dernier.
Virginie Riva, et justement les personnels de l'éducation sont appelés à la grève aujourd'hui, ainsi qu'à des mobilisations dans toute la France pour défendre salaires et conditions de travail. Ils seront rejoints par les infirmières scolaires, mais aussi les lycéens et les étudiants.
En attendant de savoir si les vacances scolaires seront plus longues, vous vous demandez sans doute s'il y aura reconfinement et quand ?
Et Emmanuel Macron ne prendra sans doute pas la parole avant le début de la semaine prochaine. Il attend de nouvelles données sur le variant anglais, le couvre-feu. Mais il y a une autre notion très importante pour le président Louis Dragnel, l'acceptation de cette mesure.
Les dernières notes des services de renseignement n'ont pas de quoi rassurer le chef de l'État. Elles soulignent toute la lassitude grandissante des Français 10 mois après le début de la crise, avec une majorité de la population qui oscille aujourd'hui entre fatalisme et exaspération. Des Français qui dénoncent de plus en plus par ailleurs l'incohérence de certaines mesures gouvernementales comme l'instauration du couvre-feu à 18h, jugée inutile. Bref, un climat qui se dégrade de semaine en semaine avec une multiplication d'actes de désobéissance depuis le début de l'année. De plus en plus de soirées, de fêtes et de rassemblements illégaux, comme dimanche soir au Havre où la police a interpellé 30 personnes dans une salle de poker clandestine. Ajouter le ras-le-bol des dizaines de milliers de restaurateurs, c'est potentiellement explosif, m'ont dit plusieurs conseillers d'Emmanuel Macron, qui observent inquiets depuis 48 heures les émeutes aux Pays-Bas contre les dernières mesures sanitaires. Dans ces conditions, Emmanuel Macron a parfaitement conscience qu'un nouveau reconfinement ne va pas être simple à faire accepter à des Français qui semblent aujourd'hui davantage redouter les conséquences économiques de la crise que le virus et tous ses variants.
Merci Louis Dragnel, vous parliez des Pays-Bas, nous serons en direct de Rotterdam à 8h tout à l'heure. Et vous disiez aussi que les Français redoutent avant tout les conséquences économiques de la crise. Au micro de Sébastien Krebs sur Europe 1, un peu plus tôt, le président de toutes les chambres de commerce de France, Pierre Goguet, évaluait la baisse de chiffre d'affaires à 25% à cause du couvre-feu à 18h.
Et selon un sondage qui est publié ce matin, un chef d'entreprise sur deux craint de ne pas pouvoir supporter un troisième confinement. D'ailleurs, Carole Ferry, pour les commerces qui ne sont pas considérés comme essentiel, baisser à nouveau le rideau, ce serait catastrophique.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios à l'étude pour éviter l'opposition commerce essentiel et non essentiel. Mais la formule magique n'a pas encore été trouvée. Il faut en tout cas une réponse plus lisible, selon Philippe Léon, président de la Fédération des commerçants de Toulouse.
Ce que l'on comprendrait, c'est un confinement général, une vraie efficacité. Mais un confinement comme celui de novembre, où les trois quarts des gens peuvent circuler librement. Voilà, où on confine ou on ne confine pas, mais on ne laisse pas la moitié des gens ouverts, l'autre fermé. C'est pas sérieux.
Les fleuristes sont particulièrement inquiets. Ils réalisent 50% de leur chiffre d'affaires entre la Saint-Valentin et le mois de juin. Ils comptent toutefois sur le click and collect, mais ça ne fonctionne pas toujours. Sylvie de Barros, par exemple, espérait beaucoup du site internet qu'elle a créé pour son magasin de vêtements à Vienne, dans l'Isère.
Bah, ça donne pas grand-chose, malheureusement. Si on fait quoi, 10% maximum. Je dis pas que ça marche pas dans certains domaines, mais dans le vêtement, on tire pas notre épingle du jeu. Comment peut-on se faire connaître quand on est noyé au milieu de tous ces gros d'Internet? C'est absolument pas possible.
Les aides de l'État l'ont toutefois aidé à traverser les premiers confinements. Elle attend de voir ce qu'il en sera pour celui à venir.
Carole Ferry. Et puis aux États-Unis, Joe Biden estime que d'ici l'été, le pays se rapproche de l'immunité collective.
7h06 sur Europe 1. Pour près de 70% des Français, les animaux sont mal défendus par les politiques. Les parlementaires vont donc devoir prouver le contraire avec la proposition de loi qu'ils examinent à partir d'aujourd'hui.
Oui, proposition de loi sur le bien-être animal présentée par la majorité. Elle vise à lutter contre l'abandon ou la maltraitance des animaux domestiques. Elle prévoit aussi l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques ou des spectacles de dauphins. Pourtant, Virginie Salmen, certains critiquent un texte très insuffisant.
Oui, ce texte ne s'attaque pas au sort des poules en cage ou à la chasse à cour. Il s'agit de lutter contre la maltraitance et l'abandon des animaux domestiques. Les chiens, les chats ou les nouveaux animaux de compagnie. Les sujets qui fâchent, ça n'est pas pour tout de suite et le député LREM Loïc Dombreval l'assume.
Si on veut faire avancer les choses, il faut les faire par étapes. Moi, je préfère une loi qui restreint effectivement à certaines catégories d'animaux, mais qui devient une vraie loi qui passe et qui est votée et qui s'inscrit dans les textes en France, plutôt que des lois qui veulent tout englobés et qui à la fin ne font jamais des lois.
Pour le député Cédric Villani, qui avait porté une proposition de loi plus ambitieuse en septembre dernier, qui n'avait pas été votée, le problème, ça n'est pas l'opinion publique, mais bien les députés et sénateurs.
Ces dernières décennies, on a vu que la science a énormément progressé pour nous apprendre ce que ressent un animal, en particulier les mammifères, on ne peut plus en douter. Et la classe politique est en retard par rapport à l'opinion publique et par rapport à la science là-dessus.
Et c'est ce qui est en train de se passer avec le référendum pour les animaux, initié par des entrepreneurs comme Xavier Niel. Il recueille plus de 900 000 signataires, mais seulement 150 parlementaires sur les 185 soutiens nécessaires.
Merci Virginie Salmen. Et avant les débats qui commencent ce soir, les professionnels du cirque ont prévu de se rassembler contre ce projet de loi.
À Paris, l'enquête se poursuit après la violente agression de Youri, un collégien de 15 ans dans le quartier de Beaugrenelle.
L'adolescent grièvement blessé par un groupe d'une dizaine de jeunes est sorti du coma, mais il ne peut pas encore répondre aux questions. Pourtant, Guillaume Biais, le travail des policiers avance, notamment sur le contexte de ce drame.
Oui, désormais pour les enquêteurs, le scénario du lynchage est une quasi-certitude. C'était une expédition punitive entre bandes en représailles à un précédent affrontement 10 jours auparavant. Reste à identifier patiemment, c'est en cours, l'ensemble des protagonistes, à commencer par la dizaine d'agresseurs qui seraient originaires de Vanves, juste au sud de Paris. Pour les retrouver, les policiers comptent à la fois sur des témoignages et sur les indices matériels qu'ils ont pu relever sur place, empreintes digitales, traces ADN, ainsi que sur l'analyse des données téléphoniques de ce soir-là et les autres enregistrements de vidéosurveillance. L'une des questions, c'est aussi de savoir pourquoi Youri s'est retrouvé impliqué dans cette rixe. Les policiers, qui n'ont pas encore pu l'interroger, n'excluent pas son éventuelle participation. L'adolescent aurait même été porteur d'un tournevis et s'est retrouvé isolé du reste du groupe, encerclé par ses agresseurs, victime d'un déchaînement de violence considéré comme une tentative de meurtre.
Guillaume Biais.
C'est l'un des plus importants musées d'art contemporain au monde. Le Centre Pompidou va subir un grand lifting de plus de 3 ans.
Et oui, inauguré en 1977 en plein cœur de Paris, il fermera ses portes pour la bonne cause fin 2023. Diane Chénouda.
Il y a urgence à désamianter, moderniser les ascenseurs, le système anti-incendie, améliorer l'accès aux handicapés et faire des économies d'énergie. Le verdict est tombé, ce sera donc 3 ans de fermeture pour le Centre Pompidou. Son président Serge Lasvin explique pourquoi.
Initialement, on s'était dit qu'on pourrait peut-être faire ces travaux en restant ouvert. On a fait faire des études et les études ont démontré que ça allait prendre une éternité, 7 ans au moins, alors que si on ferme En 3 ans, les travaux sont terminés.
La bibliothèque sera hébergée ailleurs dans Paris. L'activité du centre ne va pas s'arrêter.
Nous allons prioritairement nous efforcer de travailler avec d'autres musées, des théâtres. Il y a beaucoup de ressources à Paris. Et puis, dans la mesure du possible, nous verrons si nécessaire, nous essaierons de nous doter d'une adresse parisienne.
Peut-être donc un lieu bis à Paris. En attendant, le Centre Pompidou organisera des expositions hors les murs en région également, avant sa réouverture en 2027, avec un objectif, booster la fréquentation de 2,5% par an.
Diane Chenouda, les premiers navigateurs du Vendée Globe doivent arriver demain au Sable d'Olonne. Aux dernières nouvelles, Charlie Dalin reste en tête devant Louis Burton et Boris Herrmann. Et puis des nouvelles aussi de l'équipe de France de handball qui connaît désormais son adversaire. Pour les quarts de finale du Mondial demain, ce sera la Hongrie.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'Assemblée nationale débute l'examen de la loi sur la maltraitance animale. On en parlait dans le journal à l'instant. En France, figurez-vous que nous sommes les champions. Champions des pays, des animaux de compagnie, mais aussi celui des abandons. Est-ce que ce texte va assez loin? Est-ce qu'il répond à la problématique? Est-ce qu'il faut durcir les règles, responsabiliser les propriétaires? On va en parler, question de société aujourd'hui, portée par des personnalités. Vous avez peut-être entendu David Hallyday, il y a une heure sur Europe 1. Le journaliste Hugo Clément est engagé. Son combat, ce qu'il attend de cette loi, Hugo Clément, invité du tête-à-tête Europe matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouette. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h13 sur Europe 1. L'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est le président chinois Xi Jinping qui a ouvert hier le forum de Davos, lequel se tient en virtuel. Hein, désormais, oui. tout est virtualisé. Cela dit, sérieusement, il a vraiment parlé. Et il a profité de cette tribune pour se poser en défenseur de la mondialisation.
Oui, alors bien sûr, une mondialisation selon ses termes. La Chine est une puissance dominante. C'est donc elle qui prétend fixer l'agenda du monde. La Chine s'est d'ailleurs très bien utilisée la tribune de Davos à son avantage. Les présidents américains changent, le leadership chinois demeure. Il y a 4 ans, alors qu'un Donald Trump protectionniste et bien décidé à protéger le marché américain s'installait à la Maison-Blanche, Xi Jinping martelait son message « le monde doit rester ouvert ». Devant les chefs d'entreprise et les investisseurs du monde entier, le président chinois défendait déjà sa vision de la mondialisation. Cette fois, alors que Joe Biden s'installe, eh bien le voilà qui donne une leçon de multilatéralisme aux problèmes du monde. Il faut, je cite, « des réponses mondiales et une coopération mondiale ».
Il va plus loin, il met en garde Washington contre la poursuite de la politique de sanctions commerciales.
Ouais, le message était formulé sans détour. Quand on est une puissance dominante, on ne prend pas de gants. Menacer, intimider, recourir aux sanctions peuvent entraîner le monde dans la confrontation, a-t-il dit, et même déclencher une nouvelle guerre froide. Voilà Joe Biden prévenu, si Pékin insiste, c'est parce que le président démocrate, sur le fond, n'a pas une ligne très différente de celle de Trump. Il le dit plus poliment, mais lui aussi veut protéger le marché et les salariés américains. Lui aussi fustige la concurrence déloyale des Chinois et le pillage de la propriété intellectuelle. D'autant que la Chine a accru en 2020 son poids économique. C'est la seule grande économie qui ait enregistré une croissance positive, plus 2,3%. Et elle est devenue l'an dernier, pour la première fois, la première destination mondiale des investissements étrangers devant les États-Unis.
Devant précisément les États-Unis. Ce qui n'empêche pas Pékin de s'inquiéter quand même de la force de la reprise mondiale.
Oui, ça les inquiète. Le président chinois a parlé d'une reprise agitée à cause de la situation sanitaire. Il n'a pas caché que les perspectives mondiales étaient incertaines. Il a souhaité une meilleure coordination des économies au sein du G20. En fait, la Chine a absolument besoin de croissance. C'est ce qui fonde très largement la légitimité du régime. Sans croissance, tout peut dérailler. Au-delà de la rhétorique, Xi Jinping a un réel intérêt à ce que la confrontation avec les États-Unis soit moins vive. C'est aussi cela le sens de son message à Joe Biden. On attend la réponse américaine.
Est-ce que Nicolas Barré toussait peut-être un lapsus? J'ai regardé, vous étiez en train de dire qu'il a souhaité une meilleure coordination des économies au sein du G20.
Effectivement, ça fait tousser. Oui.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, il n'y avait vraiment aucun souci, évidemment. Il est 7h16. Et nous retrouvons Vincent Hervouette pour le Regard International. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
La Grèce a signé hier l'achat de 18 Rafales, 9 et d'occasion, avec leurs missiles et leur maintenance. Un contrat de 2,5 milliards d'euros.
Oui, un contrat en coup de vent, puisqu'il a été négocié en 4 mois seulement, et un courant d'air frais dans une industrie de défense un peu essoufflée. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'Europe est la ligne d'horizon. L'État voudrait que les industriels fabriquent et financent les avions, les hélicoptères, les blindés en commun avec nos voisins. Sur le papier, ça fait une économie d'échelle, mais en réalité, L'Airbus militaire A400M a été ruineux, comme l'hélicoptère NH90 qui existe en 22 versions différentes. Nos voisins européens ne veulent pas d'armes pour faire la guerre. Leur logique est purement industrielle.
Alors Paris rêve d'une industrie de défense européenne, d'une armée européenne.
Oui, mais c'est parce que la France s'est portée seule au secours d'Athènes qu'elle a décroché ce contrat. Elle n'a pas attendu que l'Europe se mobilise de façon souveraine. Elle a envoyé des Rafales et aussi le Charles de Gaulle en Méditerranée orientale. Et cette politique de la canonnière a, semble-t-il, payé. Les Turcs, qui défiaient le monde en explorant les fonds marins grecs et chypriotes, se sont soudain calmés. La marine française a pris une revanche. Elle avait été humiliée au printemps quand des navires turcs ont mis en joue la frégate Courbet au large de la Libye. La frégate était en mission pour l'OTAN. Les Français se sont plaints. L'Alliance les a à peine écoutés. Et pour cause, Donald Trump ne refusait rien à Recep Tayyip Erdogan.
Les Grecs redoutent d'être lâchés par les États-Unis ?
C'est ça. La Grèce vient de rallonger le service militaire, de recruter 15 000 hommes, de multiplier par 5 ses dépenses d'équipement, d'augmenter de 60% son budget défense. Elle prend donc la menace turque très au sérieux. Elle compte ses amis et elle ne compte plus trop sur l'OTAN. De même, c'est parce que les États-Unis ont laissé tomber Hosni Moubarak et soutenu les islamistes que l'Égypte du maréchal Sisi a acheté des Mistral au lieu des F-18 américains. Et c'est le même genre de raisonnement qui explique les Mistral gagnants au Qatar ou en Inde. Le paradoxe, c'est que le contrat grec est signé alors même que toute l'Europe fête ces jours-ci l'arrivée de Joe Biden dans un regain d'atlantisme.
Merci Vincent Hervouet de cette vente de 18 rafales à la Grèce. On va en reparler dans le journal de 7h30. Et puis ces enjeux géopolitiques que vous soulevez, ce sera le sujet de l'interview d'Éric Trappier au micro de Sonia Mabrouk à 8h15, le PDG de Dassault Aviation. Il est 7h19 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Tout de suite, le 6e tour de la Coupe de France qui approche et les clubs amateurs n'ont pas le droit de s'entraîner après 18h. Les petits poussés vont-ils servir de chair à canon ? Virginie Fulpin, l'édito sport dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le 6e tour de la Coupe de France de foot doit se jouer le week-end prochain. Pour les clubs amateurs, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas s'entraîner. Ils n'ont pas obtenu de dérogation horaire au couvre-feu. Pour vous, cette Coupe de France est devenue un simulacre de compétition.
On a sauvé les apparences de la Coupe de France, mais on ne donne pas les moyens aux clubs amateurs de la disputer. Donc c'est plus vraiment la Coupe. À la base, sauver cette compétition, je ne demande pas mieux. C'est un socle dans notre pays, on en a déjà parlé. Le seul moment où les mondes professionnels et amateurs peuvent se croiser. Et le sport amateur a besoin de cette éclaircie en ce moment. Mais pour ça, il faudrait que les clubs puissent se préparer pour jouer leur match. Et là, aucune dérogation horaire ne leur a donc été accordée. C'est-à-dire que couvre-feu oblige, les équipes encore qualifiées ne peuvent pas s'entraîner après 18h. Or, comme leur nom l'indique, les amateurs ne sont pas des professionnels du foot. Ils ne peuvent donc pas s'entraîner en journée. Ils ont un boulot, par ailleurs. Donc c'est un non-sens de leur permettre de jouer la Coupe sans leur en donner les moyens. Surtout qu'ils n'ont pas disputé de match de championnat depuis le mois d'octobre. Autant dire qu'ils ont besoin de s'entraîner, ne serait-ce que pour éviter les multiples blessures. Alors certains ont trouvé des solutions, comme de programmer les entraînements à 6h30 du matin en janvier, ça pique, ouais. Et puis il y a le FC Flair.
Il y a
Flair.
Un côté héroïque quand même.
Ah oui,
là,
il faut
petit poussé qui s'entraîne à 6h du matin. Bon, continuez.
Ouais, faut quand même y croire. Il y en a qui ne croient plus. Ouais. Par exemple, comme le FC Flair qui a tout simplement décidé de jeter l'éponge parce qu'il devait affronter Rouen où beaucoup de joueurs ont des contrats fédéraux. Donc eux, ils peuvent s'entraîner. Je comprends, moi, que les petits poussés n'aient pas forcément envie de servir de chair à canon pour les pros parce que ça revient un petit peu à ça.
Alors, du coup, faut l'annuler cette Coupe de France ?
Non, le problème, c'est de faire les choses à moitié. En fait, ça ne sert à rien. Il faut choisir clairement. Soit on la maintient, cette Coupe, ce qui me semble important, et on permet aux clubs amateurs d'avoir des dérogations horaires. C'est ce que deux députés ont demandé à la ministre des Sports, d'ailleurs. Soit on considère que la situation sanitaire ne le permet pas, ce que je veux bien comprendre, surtout quand on est au bord d'un troisième confinement. Mais dans ce cas-là, il faut l'assumer et expliquer qu'il ne peut pas y avoir de Coupe de France cette année. Là, on fait juste semblant d'être dans une situation normale pour préserver les apparences. Pourquoi ? Pour que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, candidat à sa propre succession, puisse se targuer d'avoir sauvé la compétition chérie des Français. Non, dans l'état actuel des choses, la Coupe de France, elle n'est pas sauvée. C'est une autre compétition. Il faudra peut-être lui trouver un autre nom, la Coupe de France des pros. Ou la Coupe de la Ligue. On tient peut-être un truc là, non ?
C'est pas mal, Coupe de la Ligue. Je crois que c'est libre en plus.
Ouais, exactement, ça tombe bien.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1. 7h24, c'est l'heure de notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La question du jour, la voici. Pourquoi, quand on rend visite à une personne en prison, on utilise l'expression « apporter des oranges » ?
Ah oui, c'est vrai, quand on plaisante avec quelqu'un en le mettant en garde sur un comportement illégal, « je vais t'apporter des oranges ».
Alors que, on est bien d'accord, à titre personnel, je préférerais largement qu'on m'apporte une tablette numérique avec une connexion Wi-Fi pour regarder des séries, avec en bonus un peu de chocolat. Mais enfin bon. Partons pour la fin du 19e siècle. René Béranger, avocat général à Lyon, député de la Drôme, puis sénateur à vie, était un homme obsédé par la bonne moralité, un farouche opposant à l'émancipation des femmes. Surnommé le père la pudeur, il a même été la risée d'un groupe musical appelé les Quatre Barbus. Le refrain disait « Pardon pour vos oreilles chastes, monsieur Béranger, tu nous emmerdes, monsieur Béranger, tu nous fais chier. »
Alors pardon Stéphane, mais les oranges dans tout ça ?
Oui, vous avez raison Mathieu Schmégard. En 1892 a eu lieu le bal des Quatre-Arts, des élèves des Beaux-Arts à Paris, dans laquelle une certaine Sarah Brown s'était montrée seins nus déguisée en Cléopâtre. Le sénateur Béranger, suscité, décide donc de les poursuivre et réclame de la prison. Un poète du nom de Raoul Ponchon écrit ces vers. « Oh Sarah Brown, si on t'emprisonne, pauvre ange, le dimanche, j'irai t'apporter des oranges. » Du poème va naître l'expression et le juge décida finalement de délivrer une simple amende symbolique. Tout est bien qui finit bien pour cette fois.
C'était donc de la poésie. À 16h, historiquement vôtre.
Oui, on réunit le faussaire Denis Vrin-Lucas, Victor Lustig, l'homme qui a vendu la Tour Eiffel, et le faux pilote de ligne, mais vrai truand, Franck Abagnale Jr. Leur point commun, vous l'avez compris, des escrocs cet après-midi.
À tout à l'heure, 16h. Il est 7h26, vous êtes sur Europe 1 à suivre la météo. Laurent Cabrol, un nouveau journal avec Sophie Echen à 7h30. Et juste après, vous le savez, l'atout Cham, Bertrand Chameroy, votre nouveau rendez-vous, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. À tout de suite. Il est 7h29 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, le ciel est presque clair, enfin presque clair, pas tout à fait parce qu'il fait nuit encore, mais il est clair presque partout, c'est ce que je voulais dire. Et une perturbation arrive à l'état, à environ 100 km des côtes bretonnes. Cette perturbation va nous gâcher un peu la vie sur la Bretagne, mais ensuite sur la Vendée, la Basse-Normandie, le Cotentin, la Picardie, le Pas-de-Calais. Dans toutes ces contrées, il pleuvra dans la matinée. Et cet après-midi sur le Poitou-Charentes, le Limousin, la Vallée de la Loire et la Haute-Normandie. Maintenant, si vous habitez le Champagne-Ardenne, le Nord, la région parisienne, la Lorraine, la Bourgogne, le centre, l'Auvergne, tout le sud-ouest et la région lyonnaise, ce seront des éclaircies qui vont se promener tout au long de cette journée. Pas besoin de prendre un imper sur Paris, c'est pas la peine, ni sur Lyon, ni sur Clermont-Ferrand. Le bassin méditerranéen, Alpes du Sud, ce sera du soleil. Les températures ce matin sont froides, mes amis. Couvrez-vous. Moins 6 du côté de Guéret, Nevers, moins 4 à Clermont, sous abri, moins 2 à Bourges, autour de 0 à 1 degré de Paris et la banlieue, et 4 à Marseille. La douceur arrive. Elle arrive après-demain, mais ce sera éphémère et surtout, elle sera très agitée avec beaucoup de vent, de la pluie et on continue à s'inquiéter pour les inondations.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
On a eu des attestations de gendarmes, d'anciens collègues, qui nous montrent qu'en fait, l'enquête menée par les JGN n'a pas été dirigée, menée avec impartialité.
La famille d'une gendarme harcelée qui s'est suicidée il y a près de 10 ans se mobilise pour faire éclater la vérité. L'enquête n'a pas été menée correctement, dénonce la sœur de la victime. Elle se confie en exclusivité sur Europe 1. L'Union européenne hausse le ton contre AstraZeneca en retard pour la distribution de son vaccin anti-Covid. Le tour de Gaulle d'Arnaud Montebourg. L'ancien ministre de l'économie est en Bretagne pour tâter le pouls des Français. En ligne de mire, sa candidature pour la présidentielle de 2022. Et puis l'avion Rafale au sommet de l'Olympe. La Grèce vient d'en commander 18 à la France. C'est une première en Europe.
Juste après ce journal, Bertrand Chameroy, l'atout Cham, ce nouveau rendez-vous de la matinale d'Europe 1 que vous attendez déjà. L'Assemblée nationale et la proposition de loi sur la maltraitance animale avec le journaliste Hugo Clément, initiateur du référendum pour les animaux. L'édito politique de Nicolas Bétou, nous revenons sur l'échec du laboratoire Pasteur dans la recherche d'un vaccin juste avant. Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pourquoi Myriam Sacri s'est-elle suicidée en septembre 2011? La gendarme de 32 ans a été retrouvée morte dans sa caserne à Lyon, une balle dans l'abdomen. Eh bien, sa famille vient de produire de nouveaux éléments pour faire rouvrir les investigations pour harcèlement et homicide involontaire. Éléments qui seront examinés aujourd'hui par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. En exclusivité sur Europe 1, Assina Sacri, la sœur de Myriam, dénonce l'impartialité de l'enquête.
Nous attendons qu'une nouvelle enquête pour les faits de harcèlement et d'homicide involontaire soit menée. Nous avons pu avoir de nouveaux éléments pour nous permettre cette réouverture. On a eu des attestations de gendarmes, d'anciens collègues, qui nous montrent qu'en fait l'enquête menée par les JGN, donc des gendarmes qui enquêtent sur des gendarmes, n'a pas été dirigée, menée avec impartialité. Au début, on était un peu naïfs, il faut avouer, où on avait toute confiance en ce que l'enquête soit faite dans les règles de l'art. Mais ça n'a pas été le cas. Ma sœur, bien avant sa mort, avait déjà dénoncé certaines pommes pourries dans sa caserne. Quand l'une des personnes nommées par ma sœur est l'une des premières personnes qui se retrouve devant son corps encore chaud, ça pose problème. Tout a été étouffé, fait pour qu'on ne fasse pas de bruit. On ne lâchera pas l'affaire.
Un témoignage exclusif recueilli par Gladys Lafitte.
À la une de l'actualité aussi, encore un peu de suspense autour de l'annonce du reconfinement en France.
Oui, finalement, Emmanuel Macron ne prendra pas la parole cette semaine. Le chef de l'État veut attendre les premières retombées sur les effets du couvre-feu généralisé à 18h. Le gouvernement se réunit demain en Conseil de défense sanitaire. C'est là que des décisions devraient être prises. Aux Pays-Bas, l'annonce, non pas d'un confinement, mais d'un couvre-feu, a provoqué la colère de la population. Deuxième nuit consécutive d'émeutes dans plusieurs villes du pays. Plus de 70 personnes ont été arrêtées hier soir.
Sur le front de la vaccination, l'Union européenne réclame des comptes à AstraZeneca.
On s'agace à Bruxelles après les annonces d'un retard de livraison du vaccin qui doit être autorisé à la fin de la semaine par l'Agence européenne du médicament. Plusieurs réunions ont eu lieu hier avec les dirigeants du laboratoire et face à la presse, la commissaire à la santé Stella Kyriakides a haussé le ton.
L'Union européenne a préfinancé le développement et la production de ce vaccin. Elle veut un retour sur son investissement. Nous voulons savoir exactement combien de doses ont été produites par AstraZeneca et où. Si elles ont été livrées, nous voulons savoir à qui. L'Union européenne veut que les doses qu'elle a commandées et préfinancées soient livrées aussi vite que possible.
Aux États-Unis, 1,5 million de vaccins devraient bientôt être administrés chaque jour. Le président Joe Biden compte sur une immunité collective d'ici l'été.
Arnaud Montebourg lance son Tour de France, première étape dans les Côtes d'Armor.
L'ancien ministre du redressement productif de François Hollande a rendu visite aux salariés de Nokia à Lannion hier. Un pas de plus vers une éventuelle candidature à la présidentielle de 2022. Claudia Bertram.
C'est un micro à la main devant un feu de palette qu'Arnaud Montebourg démarre son Tour de France auprès des employés de Nokia touchés par un plan social.
Je suis venu apporter mon soutien aux organisations syndicales ici, aux élus du territoire. Et je me fiche des étiquettes politiques.
L'occasion pour Arnaud Montebourg de promouvoir souveraineté industrielle et en même temps dépassement des clivages, aux côtés du député LR Marc Le Fur et du sénateur communiste Gérard Lahellec, qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat.
Je ne suis pas à vos côtés pour faire de la pub pour être demain président de la République.
Si Arnaud Montebourg jure ne pas être en campagne, son programme laisse peu de doutes. Échange avec les représentants syndicaux de Hop à Morlaix, rencontre avec des pêcheurs et ostréiculteurs, alors candidat pour 2022.
J'en suis pas là. Cette question, elle se posera certainement.
L'ancien ministre de l'économie y répondra même avant fin mars, promet l'un de ses proches. En attendant, ses soutiens ont lancé un mouvement, l'engagement, et Arnaud Montebourg prend le pouls sur le terrain.
Merci messieurs de vos encouragements, on va tâcher. Hein.
Et la tâche ne s'annonce pas simple pour Arnaud Montebourg. Un récent sondage présidentiel le crédite de 5%.
Reportage signé Claudia Bertram. Un an après des accusations de viol, Luc Besson a été placé sous le statut de témoin assisté à l'issue de son audition par un juge d'instruction hier soir. Cela vient confirmer que les faits qui lui sont reprochés n'ont aucun fondement, se félicite son avocat.
Et puis le Rafale s'exporte un peu plus. Et pour la première fois en Europe.
La Grèce a signé hier un gros contrat pour 18 avions de combat français. Objectif, renforcer sa défense en pleine tension avec la Turquie. Et c'est donc la première fois que le groupe Dassault Aviation va équiper une autre armée européenne que la nôtre, Élise Dangean.
Et oui, car jusqu'alors, Dassault Aviation n'avait que 3 clients pour ses rafales, l'Égypte, le Qatar et l'Inde. Le premier a déjà reçu ses 24 avions. Doha et New Delhi ont eux commandé 36 appareils. Les dernières livraisons seront effectuées dans l'année. La Grèce vient donc s'ajouter à la liste, client fidèle de Dassault depuis 45 ans. Le pays a commandé 18 rafales, 6 sont neufs, 12 sont d'occasion. Ils appartiennent à la flotte de l'armée de l'air française. Et dans la période actuelle, ce contrat est une excellente nouvelle, tant pour le groupe que pour ses 500 sous-traitants, d'autant qu'en plus des contrats étrangers, il va falloir assurer les livraisons françaises. Il en reste 40, mais Dassault espère ne pas s'arrêter là. Le Rafale est notamment en compétition en Suisse, en Finlande et en Croatie.
Les explications d'Élise Dangean.
Et notez bien qu'à 8h15, l'invité d'Europe Matin aujourd'hui, c'est Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Nous allons revenir sur cette vente, bien sûr. Le premier export au sein de l'Union européenne, les questions géopolitiques avec la Turquie aussi. Éric Trappier répondra aux questions de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Avant cela, une question de société. Un projet de loi très attendu qui arrive à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la lutte contre la maltraitance animale. On va détailler les enjeux de cette loi avec un journaliste spécialiste de cette question, engagé sur le bien-être animal, Hugo Clément, dans le tête-à-tête Europe Matin à suivre. Mais tout de suite, votre nouveau rendez-vous de la matinale, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, je vous parle de cette décision de France 3 qui révolte les maisons de retraite.
A tout de suite, il est 7h37.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, la touche âme, l'heure de retrouver le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin dans la touche âme, le cri du cœur d'un directeur d'EHPAD.
Oui, merci de me donner la parole Monsieur Béliard. Je sais que vous allez parler dans un instant bien-être animal avec Hugo Clément, que nos pensionnaires adorent d'ailleurs, hein, le Nicolas Hulot sexy comme elle l'appelle. Mais j'aimerais alerter sur le bien-être de nos aînés. Je suis très remonté comme un coucou après France Télévisions. Qu'est-ce qu'il y a Madame Poilinque? Non, je suis en ligne avec l'animateur de la matinale d'Europe numéro 1. Non, pas Nikos, Mathieu Béliard. Oui, voilà, celui qui ressemble à Pollux du manège enchanté, exactement. Bref, hier, 18h30, j'entends un de ces baroufs venant de la salle télé. Je me dis, tiens, c'est bizarre, généralement, à cette heure-ci, c'est l'heure du face-à-face de questions pour un champion. Je vois pas pourquoi il gueule. Et là, qu'est-ce que je découvre?
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h30 sur France 3. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information.
Hier, France 3 a lancé une nouvelle tranche info, comme ça, sans crier gare. Résultat, ils ont supprimé un jeu de Cyril Ferraud. Et cela, mes questions pour un champion démarrent un quart d'heure plus tôt. Quand je leur ai annoncé ça, je sais pas si vous avez déjà pris des Mephisto dans la gueule, Monsieur Béliard, mais je peux vous dire que je les ai sentis passer. Hein. Il y en a quelques-uns qui visent bien encore. Non mais vous imaginez la perte de repères comme ça, du jour au lendemain. C'est comme si moi, là, j'annonçais sur votre antenne, vous écoutez Europe 1, il est 8h12. Ah, ça a dû courir dans 2-3 salles de bain, là. Non, nos aînés ont besoin de repères. En moins d'un an, ils ont été privés de visite. On a dû annuler le showcase de Marcel Hamon et la dédicace de Fabien Egal en raison du Covid. On leur a enlevé Pernod le midi et là, on me les prive de Cyril Ferraud et de son méchamèche. Mais ça va pas la tête, FR3. J'espère que le courrier des lecteurs de Télépoche a appelé du renfort parce qu'ils vont recevoir quelques courriers bien sentis, là. Ah, c'est la goutte de trop, là. La couche est pleine. La coupe, pardon. Quand Motus s'est arrêté, ils ont rien dit. Quand l'énergie est partie sur la 8, ils se sont tus. Quand Julien Lepers s'est fait lourder, ils ont pris sur eux. Mais là, c'est l'affront trop. Je demande à la direction de France Télévisions de revenir au plus vite sur sa décision. Il en va de l'équilibre de nos pensionnaires. Et de celui de nos équipes aussi. Là, on est à bout. Ça fait 24 heures que les pensionnaires font un sitting en salle télé. Enfin, comme d'habitude, sauf que là, ils crient avec des pancartes « Je suis mamie ». Ils veulent rien entendre. Enfin, ils font la sourde oreille. Bon, enfin, on comprend. Et je vous préviens, France Télé, si vous touchez à des chiffres et des lettres ou à un cheveu de Romeshko, ça va chier. Ils peuvent montrer les dents. Hein. La dernière fois qu'on avait autant manqué de respect à des personnes âgés, c'était en 96, quand ils avaient forcé Jeanne Calment à enregistrer un single.
La farandole.
Vous l'aviez oublié, celle-ci. Ouais. Je trouve qu'on l'entend que trop peu à la radio. Allez, bonne journée.
Et vous l'avez lancé encore?
Ah oui, 1996.
Et oui,
ça l'a pas pris. Nous aussi. Bertrand Chameroy, la touche âme, tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand. À demain, enfin tout à l'heure, 10h, avec Philippe Vandel, dans Culture Média. Il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
À l'Assemblée nationale, les députés démarrent l'examen de la loi sur la maltraitance animale. Les animaux de compagnie, sévices et abandons, les animaux de cirque, de parcs aquatiques aussi. Mais le texte va-t-il assez loin? Mon invité a choisi de s'engager. Le bien-être animal, le changement de regard de la société aussi, c'est son sujet. En direct avec nous, le journaliste Hugo Clément, auteur d'un journal de guerre écologique aux éditions Fayard.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Hugo Clément.
Bonjour.
Alors, le point de départ, je le disais, selon la Fondation 30 millions d'amis, 7 Français sur 10 estiment que les animaux sont mal défendus par les politiques. Cette proposition de loi, ce débat à l'Assemblée, il était temps ?
Ah oui, il était plus que temps. Il a été rendu, je pense, indispensable par la mobilisation des associations depuis des années et par le lancement aussi du référendum pour les animaux en juillet. Je pense que le champ politique a été mis sous pression par l'opinion et du coup, il passe à un début d'action à l'Assemblée nationale.
Nous sommes, nous Français, les champions des animaux de compagnie, mais aussi les champions de l'abandon de ces mêmes animaux. La loi instaure un certificat de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce pour la première acquisition d'un animal. Est-ce que ça veut dire qu'il faut un permis pour adopter un animal de compagnie ?
Écoutez, moi, je suis pas spécialiste des animaux de compagnie, j'en ai pas, pour être tout à fait honnête. Donc, mais clairement, je pense que les animaux de compagnie sont pas des objets, sont pas des jouets qu'on peut acheter sur un coup de tête. Ce sont des êtres sensibles et donc, quand on en prend un à la maison, il faut être prêt à assumer tout ce qui va derrière, à s'en occuper, à en prendre soin jusqu'à la fin de sa vie. Donc, oui, je pense que ça ne peut être qu'une bonne idée. Nous, on accueille positivement toutes les avancées sur la question animale, aussi modeste soit-elle. Le problème, c'est que cette proposition de loi, elle oublie énormément de sujets, notamment la chasse et l'élevage, qui sont pourtant des sujets très importants pour les Français.
Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut présenter, d'ailleurs les auteurs de cette loi parlent d'une loi historique, est-ce qu'on peut présenter un texte sur le bien-être animal en laissant l'élevage de côté ?
Alors, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une loi historique. Il faut quand même rappeler que cette proposition de loi, elle traite une minuscule partie du problème. C'est vraiment le minimum, en fait. Il s'agit simplement d'avancer sur les animaux de compagnie et d'inscrire dans la loi les engagements qu'avait pris la ministre Barbara Pompili il y a quelques mois. Il y a rien de nouveau. Et il y a même des amendements qui ont été déposés par le gouvernement qui risquent, s'ils sont adoptés, d'être un recul, en fait, par rapport aux engagements qu'a pris la ministre.
Enfin,
sur les animaux sauvages dans les cirques.
Il y a rien de nouveau. Il y aura plus d'animaux sauvages dans les cirques, il n'y aura plus de cétacés dans les parcs aquatiques.
Quand je dis il n'y a rien de nouveau, c'est que ça a déjà été annoncé par Barbara Pompili il y a quelques mois. Ce sont des propositions qui avaient déjà été annoncées. Donc en fait, cette proposition de loi, elle inscrit dans la loi des annonces qui ont déjà été faites par la ministre. Et même sur ces annonces-là, c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus, par exemple sur les animaux sauvages dans les cirques, le gouvernement a déposé un amendement qui permettrait au ministère de l'écologie d'autoriser les cirques à continuer à utiliser certaines espèces sauvages. Donc pas une interdiction totale si cet amendement est adopté. Donc on espère que les promesses de Barbara Pompili seront tenues et que cette proposition de loi sera une vraie avancée, mais c'est loin d'être garanti pour l'instant au vu des amendements qui sont déposés.
Je regarderai dans le texte, il y a plus de 400 amendements déposés. C'est sur ces points-là qu'il va falloir être particulièrement vigilant. Vous parliez des cirques, est-ce qu'il y a d'autres amendements qu'il faudra regarder, modifications du texte à surveiller ?
Oui, Barbara Pompili s'est engagée à fermer les delphinariums, ce qui est une très belle avancée, ça il faut le dire, c'est une annonce très courageuse, la fin des delphinariums en France, on ne peut que l'applaudir. Mais il y a des amendements qui ont été déposés qui proposent d'autoriser par exemple les zoos à continuer à posséder des cétacés et à les reproduire, ces cétacés. Donc ça reviendrait finalement à ne pas interdire les delphinariums au final, ça reviendrait à prolonger ce système. Donc on espère vraiment que la majorité, que les députés vont rejeter ces amendements et respecter les promesses de Barbara Pompili.
Je reprends votre référendum, je le disais un peu plus tôt, vous êtes l'initiateur d'un référendum pour les animaux. Vous en êtes à l'initiative, mais vous êtes accompagné de personnalités, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean, Marc Simoncini. Alors, on a plus de 900 000 signatures citoyennes, 150 seulement de députés. Ça bloque côté politique. Vous allez un petit peu plus loin, la chasse à cours, l'élevage en cage, notamment les expérimentations scientifiques. Sur ces questions, la France est vraiment en retard.
Oui, la France est vraiment en retard et je pense que, permettez-moi l'expression, les Français en ont ras-le-bol. Quand on regarde toutes les études qui sont faites sur ces questions-là, les Français en ont ras-le-bol de la chasse à cours, 80% sont contre, le gouvernement continue à autoriser la chasse à cours et à soutenir ce mode de chasse qui est un mode de chasse cruel. Les Français en ont ras-le-bol de l'élevage en cage, qui est de la pure maltraitance animale et qui donne des produits de mauvaise qualité, le gouvernement refuse d'avancer sur ce point. Par rapport à nos voisins européens, on est très en retard. Sur la chasse à cours, c'est déjà interdit en Angleterre, c'est déjà interdit en Allemagne, par exemple. Sur les élevages de visons, on a des pays comme les Pays-Bas qui ont 150 élevages de visons et qui ont décidé de les interdire de manière immédiate, alors que nous, on en a 4 chez nous, 4 élevages de visons, avec les risques sanitaires que ça comporte, et on continue à vouloir les autoriser. Le gouvernement veut repousser l'interdiction à 5 5 ans, alors que les députés en commission se sont prononcés pour une interdiction beaucoup plus rapide.
Alors c'est intéressant parce que vous parlez de beaucoup de secteurs professionnels. Je mets la chasse à court de côté, mais puisqu'on parlait de l'élevage, des poules en cage notamment, il y a des propositions dans votre référendum en ce sens. Le projet de loi qui est à l'Assemblée, la proposition pardon, aujourd'hui, elle est plus sur le côté domestique avec des sanctions durcies. Vous parliez en revanche de la population, Hugo Clément, et de l'évolution peut-être des mentalités. On a évoqué les cirques, les animaux aquatiques. Je voudrais aussi qu'on entende bien qu'on est en train de changer de paradigme. Il n'y aura plus, par exemple, d'animaux sauvages à la télé, sur les plateaux. Plus de tigres à la fin de Fort Boyard, Hugo Clément. Il faut qu'en fait, les Français changent de regard sur l'animal.
Ah bah ça serait... Quand vous dites qu'il n'y aura plus, c'est pas sûr, encore une fois, parce qu'il y a dans ce texte...
Si la loi est votée telle quelle, vous avez raison.
Si la loi est votée telle quelle, effectivement, ça serait une avancée. Bien sûr, je veux dire, vous mettez la musique de Fort Boyard. Fort Boyard, c'est une émission formidable, mais je pense que ça sert à rien d'avoir des tigres enfermés dans des cages au milieu de l'océan dans une émission de télévision.
Non mais c'est l'exemple Fort Boyard, mais on a deux siècles, si vous voulez, où l'animal dans le cirque, à la télévision, est un spectacle. C'est ça, vous me dites, Hugo Clément, ça c'est fini.
Ce que je dis, en tout cas, c'est qu'il faut prendre conscience que les animaux ne sont pas là uniquement pour nous divertir. Un animal sauvage n'est pas là pour faire plaisir au public. Et surtout, on sait ce que ces spectacles impliquent. Les spectacles, notamment itinérants dans les cirques, c'est des animaux qui sont l'essentiel de leur temps dans des camions, dans des enclos minuscules sur des parkings au bord de supermarchés. C'est des lions qui sont au bord de l'autoroute. Donc, pour quelques minutes de divertissement pour des spectateurs, c'est des années et des années de souffrance pour ces animaux. Et ça, c'est plus acceptable. Et je pense que la grande majorité des citoyens sont tout à fait alignés là-dessus.
Responsabiliser les citoyens justement sur l'animal de compagnie, cette proposition de loi à l'Assemblée aujourd'hui, on en parle. Et Hugo Clément, je vous remercie. Je renvoie aussi vers votre référendum pour les animaux, référendumpourlesanimaux.fr, avec plus de 900 000 signatures sur cette question. Ces questions de société, les Français y sont sensibles. Merci beaucoup Hugo Clément.
Merci à vous.
L'auteur du journal de guerre écologique aux éditions Fayard, 7h50 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'Institut Pasteur abandonne l'idée d'un vaccin.
Malheureusement, c'est une déception pour l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, nous n'avons pas réussi sur ce candidat-là. Nous avons d'autres candidats sur lesquels nous basons aussi des espoirs.
Coup dur pour l'excellence scientifique française. L'édito politique de Nicolas Bétou dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors vous revenez Nicolas sur cette annonce surprise. Hier, l'Institut Pasteur jette l'éponge dans la course au vaccin contre le Covid.
Oui, et c'est une nouvelle claque pour la recherche française. Il y a 3 mois, le prix Nobel de chimie attribué à la Française Emmanuelle Charpentier avait déjà mis en lumière le fait qu'elle était partie s'installer à l'étranger et qu'en Allemagne, où elle travaille aujourd'hui, elle avait bénéficié d'une liberté et de budget impossible à réunir en France. Il y a 2 mois, la société américaine Moderna annonçait que son vaccin révolutionnaire était efficace à 94,5%. Moderna est dirigé par le Français Stéphane Bancel, parti aux États-Unis après une longue carrière en France. Enfin, il y a 1 mois, le géant pharmaceutique français Sanofi reconnaissait que son vaccin ne serait pas prêt avant la fin 2021. Au mieux.
Et pour clôturer cette série, il y a donc le retrait de Pasteur.
Voilà, une image terrible pour la maison qui porte le nom mondialement connu de l'inventeur du vaccin.
La faute à qui ?
Alors je pense que cet enchaînement de revers pour la recherche française est le résultat d'une longue histoire. Les labos ne sont pas forcément les seuls en cause. Les échecs, les mauvaises pistes, les impasses sont le lot commun des chercheurs. Mais là où dans beaucoup de pays, la prise de risque, la vitesse d'exécution, la capacité à mobiliser des sommes énormes et à rebondir ont été la clé du succès, la France est plutôt réputée pour son côté bureaucratique, avec une recherche publique qui manque cruellement de moyens par rapport au privé et des chercheurs du secteur public qui, pour certains en tout cas, continuent à mépriser gaillardement cet univers du privé, là où pourtant est le cash. Et tout ça, bien sûr, dans un contexte général de doutes profonds face à la science.
Vous faites allusion aux anti-vaccins ?
Ben, entre autres, oui. C'est sûr que l'image de la science, du progrès, de l'innovation est tellement dégradée en France que ça rejaillit sur la motivation de tout un secteur. Dans ces conditions, comment prendre des risques dans un pays qui ne jure que par le principe de précaution ? Comment, pour un laboratoire pharmaceutique, investir des milliards d'euros quand l'image en France des Big Pharma est à ce point controversée ? Les premières vagues de l'épidémie de coronavirus avaient déjà porté un rude coup à cette fierté française d'avoir soi-disant le meilleur système de santé au monde. Eh bien voilà qu'on comprend maintenant que l'avenir, symbolisé par la recherche,
n'est pas beaucoup plus assurée.
L'édito politique de Nicolas Bétou, c'est pas forcément très rassurant ce matin, mais c'est comme ça. Nicolas Bétou, votre édito politique, le directeur du journal L'Opinion, tous les jours juste avant 8h sur Europe 1, 7h55. Nicolas Cantelou est avec nous et tous les jours il conseille à sa façon l'invité de la matinale. À 8h15, Sania Mabrouk interviewera Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Qui peut bien dire un mot à Éric Trappier ce matin?
Ouais, salut, c'est moi. Salut, c'est Nikos. Entertainer, intervieweur, photographeur, ambassadeur de Grèce en France. Salut Mathieu, salut Nicolas Bétou.
Bonjour.
Alors vous allez me dire pourquoi moi, me direz-vous ce matin à votre antenne, à votre micro? Eh bien parce que la Grèce, oui, ouais. J'ai dit ouais. Oui, ouais. Ouais. La Grèce vient d'acheter 18 Rafales à la France, voilà.
Et c'est vrai, Paris vient de signer la vente de 18 Rafales à la Grèce.
Mais pas n'importe quelle Rafale, 18 Rafales full option, siège en cuir automassant, verrouillage centralisé des portes, essuie-glace, autoradio, béquet arrière, jantalu et klaxo. Klaxon italien, bien sûr. Top, non ?
C'est parfait.
Je vous regarde un pour vous.
C'est très élégant. Nikos, vous aviez une petite demande à Éric Trappier, je crois, le PDG de Dassault.
Oui, Éric, tu aurais pu quand même nous faire un... Je te tutoie, Éric. Tu aurais pu nous faire un petit geste commercial, un petit, je sais pas, un petit porte-clés rigolo, le singe avec le kiki qui sort, ou je sais pas, un sapin qui sent bon, je sais pas, moi. Oui, bonjour, c'est Lolo Cabrol. Je travaille au service promotion de Dassault, et c'est uniquement, je tiens à vous le rappeler, cher Nicolas Vegas, pour le 20e Rafale acheté, que Éric Trappier vous offre un épluche légumes pour préparer vos tartes, vos ratatouilles et vos magnifiques et bonnes soupes onctueuses. Oh, 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 Lolo, je vais pas m'emplâtrer. Hein, remettre encore 80 patates pour un épluche légumes à la con, non?
C'est signé Nicolas Cantelou qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Vous l'avez compris, à 8h15, Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, au micro de Sonia Mabrouk. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presque. Il est 7h59 sur Europe 1 et Laurent Cabrol, le vrai, est avec nous pour la météo.
Et pour le même prix, il va faire les températures. Alors les températures en ce moment sont les plus basses, hein, c'est à l'heure à laquelle elles sont les plus basses, entre moins 7 et plus 2 degrés, telle est la fourchette sur pratiquement 80% des villes de France. Donc on secoue, vous l'avez compris, et la pluie arrive. Alors la pluie arrive sur avec des températures plus douces, hein, à Brest par exemple, où elle va toucher Brest, la pluie il fait 5 degrés. Bretagne, Vendée, Basse-Normandie, Picardie, Cotentin, Pas-de-Calais, ce sont des régions qui seront touchées ce matin par la pluie. C'est une perturbation qui arrive donc par l'Atlantique. Le Poitou-Charentes, le Limousin, la vallée de la Loire et la Haute-Normandie seront concernés dans l'après-midi. Ça ne change pas par rapport à ce que je dis depuis ce matin. Et puis les autres régions auront des éclaircies. Paris, Lorraine, Bourgogne, Centre, Auvergne, Sud-Ouest, région lyonnaise, Champagne-Ardenne, Nord. Des éclaircies parfois très belles, hein, parfois presque un ciel dégagé. Le bassin méditerranéen, les Alpes du Sud, il fera beau. Les températures maximales entre 5 et 10 degrés. Je vous disais, demain, ça sera encore froid, mais jeudi, ça va se radoucir avec l'arrivée du vent et presque peut-être de vent tempétueux.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.